Chapitre 15. L'individualité. Se croire un est certes une plaisanterie de très mauvais goût, malheureusement, cette vaine illusion existe à l'intérieur de chacun de nous. Lamentablement, nous pensons toujours le meilleur de nous-mêmes, il ne nous arrive jamais de comprendre que nous ne possédons même pas d'individualité véritable. Le pire de ceci, c'est que nous nous donnons même le faux luxe de supposer que chacun de nous jouit d'une pleine conscience et d'une volonté propre. Pauvre de nous! Que nous sommes sots! Il n'y a aucun doute que l'ignorance est le pire des malheurs. À l'intérieur de chacun de nous, il y a beaucoup de milliers d'individus différents, sujets distincts, moi ou gens qui se querellent, qui se disputent pour la suprématie, et vivent sans aucun ordre ou accord. Si nous étions conscients, si nous nous réveillions de tant de rêves et fantaisies, que notre vie serait différente. Mais, comble de malheur, les émotions négatives, les autoconsidérations et l'amour-propre nous fascinent, nous hypnotisent, et ne nous laissent jamais nous rappeler de nous-mêmes, nous voir tels que nous sommes. Nous croyons avoir une seule volonté, quand en réalité nous possédons beaucoup de volontés intérieures se battant entre elles, vivant conflits perpétuels, agissent dans des directions différentes. Si nous avions une individualité véritable, si nous possédions une unité, au lieu d'une multiplicité, nous aurions aussi continuité de propos, conscience éveillée, volonté particulière, individuelle. Ce qui est recommandé, c'est de changer. Pourtant, nous devons commencer par être sincères avec nous-mêmes. Nous avons besoin de faire un inventaire psychologique de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. Il est possible d'arriver à l'individualité, mais si nous croyons l'avoir, cette possibilité disparaîtra. Il est évident que nous ne lutterions jamais pour obtenir quelque chose que nous croyons avoir. La fantaisie nous fait croire que nous possédons l'individualité, et même, il existe dans le monde des écoles qui l'enseignent ainsi. Il est urgent de lutter contre la fantaisie, celle-ci nous fait apparaître comme si nous étions ceci ou cela, alors qu'en réalité, nous sommes misérables, dévergondés et pervers. Nous pensons que nous sommes d'hommes, quand en vérité, nous ne sommes que des mammifères intellectuels, dépourvus d'individualité. Les mythomanes se croient des dieux, des magmas, etc., sans soupçonner qu'ils n'ont même pas de mental individuel ni de volonté consciente. Les égolâtres adorent tellement leur cher ego qu'ils n'accepteraient jamais l'idée de la multiplicité des égos à l'intérieur d'eux-mêmes. Les paranoïaques, avec tout l'orgueil classique qui les caractérise, ne liront même pas ce livre. Il est indispensable de lutter à mort contre la fantaisie que nous avons au sujet de nous-mêmes, si nous ne voulons pas être victimes d'émotions artificielles et fausses expériences, qui, en plus de nous mettre dans des situations ridicules, arrêtent toute possibilité de développement intérieur. L'animal intellectuel est tellement hypnotisé par sa fantaisie, qu'il rêve qu'il est lion ou aigle, alors qu'en vérité, il n'est pas plus qu'un vil ver de la boue de la terre. Le mythomane n'accepterait jamais les affirmations faites plus haut, quoi qu'on en dise, il se sent, évidemment, archi-hiérophante, et ne soupçonne pas que la fantaisie n'est rien, rien d'autre que fantaisie, tout simplement. La fantaisie est une force réelle, qui agit universellement sur l'humanité, et qui maintient l'humanoïde intellectuel en état de rêve, lui faisant croire qu'il est déjà un homme, qu'il possède une individualité véritable, une volonté, une conscience éveillée, un mental particulier, etc., etc., etc. Quand nous pensons que nous sommes un, nous ne pouvons nous mouvoir de là où nous sommes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes enlisés, et finalement, nous dégénérons, évolution. Chacun de nous se trouve à une étape psychologique déterminée, et nous ne pourrons pas en sortir, à moins de découvrir directement toutes ces personnes ou moi qui vivent à l'intérieur de notre personne. Il est évident qu'à l'aide de l'auto-observation intime, nous pourrons voir les gens qui vivent dans notre psyché, et qu'il nous faut éliminer pour arriver à la transformation radicale. Cette perception, cette auto-observation, change fondamentalement toutes les idées fausses que nous avions sur nous-mêmes, et nous parvenons à mettre en évidence le fait concret que nous ne possédons pas d'individualité véritable. Tant que nous ne nous auto-observerons pas, nous vivrons dans l'illusion que nous sommes un, et notre vie s'en trouvera faussée. Il ne nous sera pas possible d'avoir des relations correctes avec nos semblables, tant qu'un changement intérieur n'aura pas été réalisé dans le fond de notre psyché. Tout changement intime exige l'élimination préalable des moi que nous portons à l'intérieur. D'aucune manière, nous ne pourrions éliminer ces moi si nous ne les observons pas dans notre intérieur. Ceux qui se sentent un, qui pensent le meilleur d'eux-mêmes, n'accepteraient jamais la doctrine des nombreux moi, ne désirent pas non plus observer les moi, et par conséquent, toute possibilité de changement en eux devient impossible. Il n'est pas possible de changer si on n'élimine pas. Mais, si celui qui se sent en possession de l'individualité acceptait qu'il doit éliminer, il ignorerait réellement ce qu'il doit éliminer. Cependant, nous ne devons pas oublier que celui qui se croit être un, s'auto-trompe et croit savoir ce qu'il doit éliminer, mais en vérité, il ne sait même pas qu'il ne sait pas. C'est un ignorant cultivé. Nous avons besoin de nous déségoïstiser pour nous individualiser, mais à celui qui croit posséder l'individualité, il est impossible de se déségoïstiser. L'individualité est sacrée à 100%, rares sont ceux qui l'ont, mais tous pensent l'avoir. Comment pourrions-nous éliminer des moi, si nous croyons avoir un moi unique? Cependant, nous devons être très clairs dans ces enseignements. Car il existe le danger psychologique de confondre l'individualité authentique avec l'idée d'une espèce de moi supérieur ou quelque chose dans le style. L'individualité sacrée se trouve beaucoup plus loin que toute forme de moi, c'est ce qui est, ce qui toujours a été, ce qui toujours sera. L'individualité légitime est l'être, et la raison d'être de l'être est l'être lui-même. Distinguer l'être et le moi. Ceux qui confondent le moi avec l'être ne se sont, certes, jamais auto-observés sérieusement. Tant que l'essence, la conscience, continuera à être prise parmi cet ensemble de moi que nous portons à l'intérieur, le changement radical sera plus qu'impossible.